je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'actualité des luttes de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous recevons en direct Christian Joyeur.
Bonjour.
Bonjour à toi. Et il vient nous parler de son livre « Postier sans papier, récit d'une grève » qu'il a écrit durant la première pause Covid et qui relate la vie de la grève des sans-papiers de Chronopost donc, de 2019. Donc, salut Christian. Première question. Ce ne sera pas sur 2019, ce sera sur la grève actuelle, puisque il y a une autre grève de Chronopost qui a commencé en 2022 et qui a une particularité, c'est qu'elle est en lien avec d'autres piquets de grève dans la région parisienne. Donc est-ce que tu peux nous en faire un bref, ou moins bref si tu veux, retour sur la situation actuelle?
Oui, donc effectivement, après la lutte Chronopost, donc on a eu des contacts avec des groupes de travailleurs. Donc c'est comme ça, les RSI, une boîte d'intérim spécialisée dans le bâtiment, les camarades sont venus nous voir. Et le collectif aussi avait des personnes travaillant dans une immense plateforme logistique à DPD au-delà de Cormeil, Coudray-Monceau. Donc il y a ces deux groupes qui se sont constitués et sur Alfortville, en fait, on connaissait des personnes qui étaient sans papier, dont une qui d'ailleurs avait fait la lutte en 2019, mais pas en tant que Chronopost, mais en tant que soutien. Et sur le site d'Alfortville, l'agence Chronopost n'a rien changé au montage de surexploitation qui fait que en fait ils sous-traitent la moitié du site à un sous-traitant qui là c'était de Richebourg en 2019, c'était encore de Richebourg en 2021, mais cette fois-ci c'était des intérimaires de Richebourg intérim, c'est-à-dire en gros de Richebourg se prêter du matériel humain à lui-même et avec des contrats d'une semaine alors que c'était des postes pérennes. Donc il y avait vraiment, c'était même pas qu'il y avait rien de changé, ça s'était même aggravé en termes de, d'illégalité ouverte. Illégalité ouverte, évidemment, par l'utilisation massive de personnes sans titre, de salariés sans titre, mais aussi délit de marchandage. Le délit de marchandage était aggravé même. Donc Chronopost, qui sous-traite son cœur de métier, c'est un délit de marchandage. De Richebourg qui fabrique un étage juridique supplémentaire avec sa boîte d'intérim, donc c'est un deuxième délit de marchandage. Et puis évidemment une utilisation abusive de l'intérim avec des contrats à la semaine où c'est à chaque fois c'est argumenté avec une augmentation temporaire d'activité. Voilà, donc on se posait la question de pénétrer de nouveau, de regrouper de nouveau avec des sans-papiers de l'agence, d'autant plus que les refusés de 2020, eux, voulaient repartir en grève, jusqu'à ce qu'on rende compte, en fait, il y en avait plusieurs qui étaient déjà dans le collectif et on ne s'en rendait pas compte. Donc on a constitué un deuxième groupe deux ans après, hein, et c'est comme ça que Chronopost n'a rien changé. Nous, on a repris le mouvement. Alors Chronopost était au courant parce que deux fois, à chaque fois, on voyait le DRH de Chronopost au siège qui est à Port d'Orléans. Et il nous disait, mais nous sommes victimes, je ne suis pas l'employeur de ces travailleurs. Le problème, c'est que l'agence Chronopost était parfaitement au courant. La meilleure preuve en est qu'il ne délivrait pas de badge aux intérimaires de Richebourg. Et quand ces derniers leur demandaient pourquoi ils n'ont pas de badge, alors que des intérimaires Chronopost, il y en avait aussi. Tous les salariés, qu'ils soient en fixe ou intérimaires, sur la partie gérée directement par Chronopost, sur la partie de déchargement et de tri colis, tout le monde avait un badge. Mais la partie de Richebourg, seuls les contremaîtres avaient un badge, les autres n'en avaient pas. Et quand ces derniers demandaient à Chronopost, on leur répondait « Vos papiers ne sont pas bons ». Donc, c'était un système, un montage qui était connu de Chronopost.
Et tout aussi rapidement sur ce qui se passe au coup de Raymond Sceau, DPD, et notamment sur le système de concurrence malsain, très malsain même, entre la partie gérée par De Richebourg intérim et celle d'en face qui est...
Sur DPD, c'est le même principe que sur Alfortville, c'est-à-dire les camions... en fait, les responsables savent quel type de colis arrive. Donc, du coup, ils routent les camions avec les colis les plus lourds sur la partie qui est géré par De Richebourg. C'était aussi De Richebourg à DPD. Mais c'est le même principe à Alfortville. Ils mettent les camions avec les colis les plus lourds sur la partie qui va être faite par les sans-papiers. Quoi.
Sur le rôle de... Tu peux en dire plus sur le rôle de De Richebourg dans cette... la recherche de sans-papiers, d'intérimaires sans-papiers.
La recherche d'intérimaires sans-papiers, c'est en fait les sans-papiers, ça permet de dégrader les conditions de travail, c'est-à-dire de faire travailler plus vite. Alors il y a des aspects salariaux. Les gens sont ras le SMIG. Il y a des aspects de conditions de travail, c'est-à-dire, pour donner une idée, sur Alfortville, il y a un contremaître de Richebourg qui est en hauteur, qui est positionné en hauteur sur une structure et qui crie pendant tout le déchargement des camions. Et quand les camions sont déchargés, il se retourne et il crie sur ceux qui trient les colis. Et bon, moi, j'ai vu... une vidéo sur le tri du colis, c'est hallucinant. Il faut aller à toute vitesse, il faut scanner. Alors, aller à toute vitesse en déchargeant des camions, c'était une demi-heure le camion petit, 45 minutes, oui, le gros camion. Donc, c'est prendre des risques avec ses lombaires. Et de toute façon, les personnes ne pouvaient pas tenir sur le long terme. Soit elle se plaignait, soit elle craquait physiquement, et de toute façon, soit elle craquait, elle ne pouvait pas durer, soit elle râlait, leur contrat s'arrêtait. Ils s'arrêtaient même en cours de semaine, ce qui est illégal. Mais ils savaient parfaitement que quand ils disaient à un sans-papier « tu ne viens pas demain », ben, ils ne pouvaient pas argumenter sur l'illégalité de la chose. Et ensuite, le tri du colis se fait à toute vitesse. Donc ça, le tout cumulé, ça fait des heures extrêmes. Ça fait pas beaucoup d'heures. Le tri se fait entre, alors c'est selon 3 heures ou c'est 4 heures ou c'est 5 heures du matin, et ça se termine systématiquement à 7h30. Bon, ça c'est le prévisionnel, mais des fois quand ça se terminait un peu plus tard, à 7h45 ou à 8h, ce qui était en plus n'était pas payé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut arriver en pleine nuit pour des fois 2h30 de travail, des fois 1h, entre le lundi et le mardi, c'est 1 heure de travail, et la personne qui refuse de le faire, évidemment, elle n'a pas le contrat pour les jours suivants. Donc, soit 2h30, soit 3h30, soit 4h30, ça fait des feuilles de paye qui sont entre 600 et 800 euros, des fois aux limites inférieures du mi-temps. Et ça de façon à ce que la personne ne puisse pas revendiquer un mois travaillé, parce qu'au regard de la circulaire Valls, si c'est inférieur à un demi-SMIG, ce n'est pas considéré comme un mois travaillé. Donc les personnes sont... ce n'est pas qu'elles sont triées, c'est les conditions sont devenues tellement difficiles qu'il n'y a plus que les sans-papiers qui résistent. Donc... Ça devient un mode d'exploitation qui est pas réversible. Donc là, on a bien vu la dureté aggravée sur les sans-papiers est liée à une pression sur les chômeurs, sur les titulaires, sur les bénéficiaires entre guillemets du RSA ou de l'ASS, pour qu'ils aillent sur des travaux difficiles. Mais je pense que ça va pas marcher. Parce que les conditions de travail ont été trop dégradées là où les sans-papiers travaillent, quoi. Du coup, ils ne pourront pas basculer. Remplacer les sans-papiers au boulot par des chômeurs en fin de droit, ça ne va pas marcher.
Tu disais que tes conditions de travail étaient très mauvaises. Est-ce que tu peux nous parler de comment... Tu disais à l'instant que c'était en pleine nuit, que ça se passait en pleine nuit, qu'il devait arriver en pleine nuit. Est-ce que tu peux nous donner un peu, nous dire comment c'est l'entrée du coudray-Monceau.
L'entrée au coudray-Monceau, c'est en plusieurs postes. Donc là, il n'y a pas de problème d'accès. Le problème, c'est quand à la fin, la journée de travail... se terminer après qu'il n'y ait plus de bus. Alors là, il devait rejoindre à pied pendant une heure de marche, la gare de Corbeil, puis ensuite prendre un bus de nuit, puis un deuxième bus de nuit. Non, par contre, l'accès en pleine nuit à Chronopost Alfortville, c'est des bus de nuit. Et ils arrivaient il fallait arriver une demi-heure avant. Parce que n'ayant pas de badge, il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un avec badge pour pouvoir rentrer donc, avec lui. Donc c'est ainsi que 20-25 personnes faisaient ça. Et donc il y avait une intrusion quotidienne sous l'œil des caméras de 25 personnes par nuit de travail. Donc évidemment, ça aussi, c'était connu de Chronopost.
Non, je voulais dire à Coudray-Monceau, donc ça se passe de nuit, sauf que Coudray-Monceau, c'est pas Alfortville, donc c'est pas les bus de la RATP qui passent par là, et que le site de Coudray-Monceau, c'est au bord d'une nationale où il y a du monde, ou en tout cas, une nationale où c'est pas éclairé, dangereuse, et au-dessus d'une...
Non, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, non, c'est pas dangereux. C'est des postes. C'est des postes. Les camarades de DPD étaient sur des postes qui duraient 7 heures, je crois. Les conditions sont différentes. C'est du temps partiel imposé, évidemment, à Alfortville. Sur DPD, c'est du temps plein, avec des postes soit du matin, soit d'après-midi.
Sachant que DPD est lui-même, c'est une boîte qui est elle-même une filiale de Chronopost.
C'est une filiale de la Poste. C'est-à-dire, DPD et Chronopost sont deux filiales colis de la Poste. Alors, la Poste commence créer Chronopost dans les années 60. C'était avec l'objectif de sortir du fonctionnariat ceux qui allaient travailler sur Chronopost. Chronopost, c'était une entreprise de droit privé, filiale à 100% de la Poste, c'est toujours filiale à 100% de la Poste. Mais plutôt que d'y mettre des fonctionnaires, c'était des gens de droit privé, comme d'autres entreprises. C'est un peu plus tard que, pour arriver à gagner des pourcentages sur le coût du colis, ils se sont mis à sous-traiter. Je ne sais pas de quand date la sous-traitance, mais ils ont sous-traité leur cœur de métier, alors qu'avant, ça ne se faisait pas de sous-traiter son cœur de métier. Ils ont sous-traité leur... Et après, le palier ensuite, c'est d'employer, que le sous-traitant emploie des intérimaires, et puis les intérimaires, après, c'est des sans-papiers. Donc on voit des processus juridiques qui aboutissent aujourd'hui, en fait, ils ont remplacé des fonctionnaires par des sans-papiers. Évidemment, ça a duré des dizaines d'années. Mais ça a été le processus. Donc quand les gens qui sont au boulot s'imaginent que les sans-papiers, c'est des conditions différentes, c'est pas eux, c'est pas leur univers, c'est pas leur monde, attention. Ça peut évoluer vite. Ça dépend de la brutalité de la bourgeoisie, mais par exemple, on voit bien dans le film The Navigators qu'en une année, ils remplacent des fonctionnaires par des intérimaires. Et des intérimaires avec des équipes ils sont 10 au début, ils sont 4 à la fin et il y a un mort. D'accident du travail. Donc ça peut aller très vite. En Angleterre, c'est allé très très vite, en Grande-Bretagne. Là, ça va un peu moins vite, mais ça aboutit à ce qu'on voit, c'est une délocalisation sur place, que ce soit la logistique, le nettoyage, la restauration, le bâtiment. Bon, toutes choses qui ne peuvent pas être délocalisées. Donc en fait, ils mettent ici des conditions d'exploitation qui sont celles des pays lointains, mais c'est bel et bien ici. Et c'est amené à s'étendre, puisque en fait, ils cherchent à étendre les types de conditions de travail aux gens en fixe, aux gens en règle. Sur le bâtiment, ça fait longtemps que c'est le cas. Hein. Le contremaître, il fonctionne à l'insulte. Je parle pour le gros œuvre, hein, pour le deuxième œuvre. C'est différent. Mais pour le gros œuvre, le contremaître insulte tout le monde. Mais ça a commencé sur la relation avec les sans-papiers.
Notamment sur les accidents du travail, est-ce que tu as des chiffres par rapport aux sans-papiers ?
Non, ça, j'ai pas de chiffres. Mais par définition, il n'y a pas de statistiques. Mais c'est vrai que...
Tu as des témoignages ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents ?
Il y a même des accidents mortels. Il y a un ancien membre du collectif qui a été sa tranchée s'est effondrée. Il n'y avait pas de soutènement, mais lui était en règle, hein. Ça faisait des années qu'il était en règle, mais c'est ce genre de choses qui se passent, c'est-à-dire quand il y a les conditions se dégradent, elles se dégradent pas seulement pour les sans-papiers, elles se dégradent pour tout le monde, mais particulièrement sur les sans-papiers. Il y a quelques années, il y avait eu un chantier à Breteuil, chantier de Breteuil, c'était en 2016, en septembre 2016, il y a une grève qui provient d'un accident. D'abord, ils ont réussi à camoufler un accident. Puis le deuxième accident, ils n'ont pas réussi... Enfin, ce n'est pas qu'ils n'ont pas réussi à le camoufler. Les camarades, ils étaient trois. L'un des trois est accidenté. Et du coup, le chantier, il y a eu une grève qui aboutit à la régularisation de toutes les personnes qui étaient... Enfin, ils étaient tous sans papier. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du désamiantage, mais de façon sauvage. Ça coûte très cher, le désamiantage, s'il faut respecter la réglementation. Là, c'était un moyen d'économiser. Et en plus, les donneurs d'ordre le savent à l'avance. C'est-à-dire qu'ils savent à l'avance s'il y a quelqu'un qui répond à un appel d'offres et que c'est un prix dérisoire, c'est forcément que des sans-papiers vont être employés. Donc après, maladie professionnelle, mais comme ça dure 30 ans avant d'avoir un cancer, c'est pour plus tard. Et conditions de travail désastreuses sur le chantier. Donc oui, il y a maintenant, on n'a pas de hauteur, hein, on n'a pas de vision globale. On voit des choses se passer, on voit des personnes accidentées, mais on ne sait pas quantifier.
Avant d'aller plus précisément sur la grève de 2019, tu parlais de la logistique. Est-ce que vous avez des liens, le collectif de Vitry a des liens avec le monde de la logistique? Est-ce que toi et les syndicats qui soutiennent la grève de Chronopost, vous avez des liens avec le monde de la logistique?
Des liens syndicaux, non. On a eu aussi, il y a la Fédération Sud PTT qui a appuyé la grève de 2019, qui a appuyé la grève de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les syndicats de logistique proprement dit, non. Aussi, c'est quand les informations qu'on a, c'est par des personnes qui viennent. Quand il y a des groupes de sans-papiers sur une entreprise de logistique, bah là, on le voit. Donc, il peut y avoir des systèmes de surexploitation sur une entreprise de logistique. Jusqu'à présent, les groupes qu'on a connus, bon, je ne vais pas dire les entreprises parce que ça ne s'est pas passé, mais les groupes se sont disloqués. Donc on n'a pas pu faire d'autres luttes sur ces boîtes, sur ces entrepôts.
Donc là, on va sur 2019. Avant de parler de la grève de 2019, on va quand même faire l'antécédent. Et le début, c'est le collectif de sans-papiers de Vitry. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire?
Alors, donc, le collectif apparaît en 2008. Après une manifestation RESF dans la ville, comme à l'époque j'étais dans une organisation d'extrême gauche qui avait une intervention sur la ville, y compris dans RESF, on avait un contact qui venait d'un foyer de Montreuil, enfin de l'ancien foyer Nouvelle-France. La lutte Nouvelle-France, c'était une lutte qui a duré des années. Et il y avait un délégué qui logeait dans un des deux foyers de Vitry. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire de la propagande pour appeler à cette manif dans le foyer. Et il y avait eu une vingtaine de personnes sans papier qui sont venues. Et après ça, on a fait des réunions sur ce foyer et sur l'autre. Il y a deux foyers à Vitry. Alors c'est pas Montreuil, il y en a une douzaine, là il n'y a que deux, mais on a commencé à constituer un morceau de collectif en commençant sur les arrestations, parce qu'il y avait des arrestations systématiques dans le foyer des Ardoines, entre le foyer des Ardoines et la gare, et sur le foyer Concorde, autour du foyer Concorde, entre le foyer Concorde et là où les gens allaient apprendre le français. Donc je trouvais ça particulièrement pervers. Mais donc au début, on était rattaché formellement au CSP 94, le collectif du 94, mais celui-ci ne s'est pas maintenu. Et la première grande lutte qu'on a menée, c'était l'occupation des impôts de Vitry et surtout l'occupation du trottoir devant les impôts de Vitry qui a duré 3 mois. Et donc ça a propulsé le collectif avec un comité de soutien important d'ailleurs. Il y avait des réunions avec une vingtaine de personnes pendant des années. Et donc le collectif s'est constitué, est devenu donc assez rapidement le collectif du 94, même s'il gardait son nom, CTSPV, le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Et en 2016, avec l'action avec l'intersyndicale et l'inspection du travail, et l'action avec 2 autres collectifs, qui étaient droit devant SSP 93, on s'est étendu sur d'autres départements. Donc après, depuis lors... Quand il y avait des groupes qui nous rejoignaient, on ne regardait pas de quel département ils étaient, on prenait. Et donc d'ailleurs, en particulier, la lutte de 2019 réunit des gens qui sont sur plusieurs sites de Chronopost ou Post. Et ça a été pareil en 2021. Donc il y a des gens qui venaient d'autres sites. Et sinon, dans ceux qui participaient au piquet de grève et qui dormaient, il y avait aussi des gens de Paris, de Montreuil, etc. Quoi. Sur Alfortville, parce qu'il y a eu 3 piquets de grève.
Et donc, du coup, comment tout ça a démarré?
Tout ça, c'est-à-dire
comment la grève de 2019 a commencé? Comment vous l'avez préparée?
Ben on l'a préparé en fait, on a été, bon, ça faisait plusieurs années que, y compris quand, alors collectif des travailleurs sans papier de Vitry, mais au début c'était assez formel, c'est-à-dire on n'était pas tourné vers les entreprises, on s'est posé le problème des entreprises, on était actifs sur les membres. Pour leur dire, voilà, si jamais il y a un problème en entreprise, on est là, il y a le groupe qui est là, donc on s'est battu contre des licenciements. On s'est même rendu compte que les DRH, quand ils voient arriver un collectif de sans-papiers, ils sont un peu démunis. On a réussi à obtenir des réembauches, alors que même une personne, ça faisait un an qu'elle était licenciée, jamais un syndicat, même de la boîte, arrive à obtenir ça. Donc, mais pendant plusieurs années, les initiatives, les actions qu'on faisait, c'était avec des faibles effectifs et sur des personnes seules, où le collectif soutenait la personne qui était seule, mais qui était considérée comme étant du collectif. Là où ça a changé d'ampleur, c'est qu'il y a eu une campagne commune qui a suivi une manif importante du 18 décembre 2018. Donc il y a eu une campagne commune qui était tournée où en fait la CGT était dans... il y avait deux personnes du collectif Migrants Confédéral dans la campagne. Et ces personnes invitaient les collectifs à aller vers les entreprises. Donc nous, on a eu une opportunité sur Chronopost. Il y avait un camarade qui travaillait sur Chronopost depuis pas mal de mois, qui nous disait, ben, moi je vais me faire virer, je vais me faire virer. Donc on a aggloméré d'abord 2 personnes, puis on a essayé... D'autres qui étaient des collègues de travail. D'abord, ça n'a pas marché parce qu'en fait, on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ça n'a pas marché parce que les gens savaient qu'ils n'étaient pas régularisables. Ils avaient des feuilles de... En gros, des feuilles de paie globalement inférieures au mi-temps. Ils avaient 6 mois de paie au grand maximum. Ils étaient depuis moins de 3 ans en France. Donc, ils n'étaient pas dans les critères. Et ça, on s'est rendu compte comme ça que les entreprises qui travaillaient sur Alfortville, l'agence d'Alfortville, s'étaient ajustées au protocole de lutte qu'ils avaient vu se faire en 2017, en 2018 avec la CGT. Et donc des sans-papiers arrivés récemment en France et travaillant, ne pouvant pas accumuler des droits, quoi. Quand on a compris ça, on s'est dit, bah, de toute façon, il faut mener la lutte, mais en dehors de la circulaire Valls. Et avec une deuxième tentative d'organisation, On a aggloméré des gens, on leur a dit qu'on était déterminés, ils ont vu qu'on était déterminés. Le fait qu'il y ait un turnover ne les gênait pas, et c'est eux-mêmes qui ont dit, mais de toute façon, quand quelqu'un quitte l'entreprise, il y en aura un autre, et peu à peu, on sera plus nombreux. Et ça, c'était aussi un choix d'impliquer dans la lutte des ex-salariés. Parce que la CGT ne fait plus ça. Elle avait fait ça en 2017, 2018, je ne sais plus, je crois. Mais après, elle ne faisait plus ça. Pour faire partie d'une lutte CGT, il faut être en poste. Nous, on intégrait des gens qui avaient travaillé. Alors, c'est une difficulté supplémentaire, hein, parce qu'il faut être sûr qu'elle ait travaillé. Et ça, on a du mal à être sûr. Donc c'est comme ça qu'on a constitué un groupe militant prêt à faire grève, c'est arrêter le travail. Alors c'est une grève, politiquement c'est une grève, maintenant c'est pas considéré comme une grève au regard du droit de l'État français. De toute façon, l'État français ne reconnaît pas la communauté d'intérêt par rapport à des intérimaires qui se mettent en grève.
Juste avant de faire la pause, tu peux nous rappeler un peu c'est quoi les critères VALS ?
Alors les critères VALS, c'est, disons, le cœur, c'est 5 ans de présence. Un CERFA, c'est-à-dire un CERFA, c'est le document générique de l'État, mais c'est une sorte de promesse d'embauche remplie par un patron. Et bon, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit au SMIG, hein. C'est à plein temps, en gros à plein temps, parce que les gens sont toujours pratiquement systématiquement au SMIG. Donc c'est 5 ans, un CERFA d'un patron, et il faut produire plus de 8 feuilles de paye dans les 24 derniers mois, et les 8 feuilles de paye doivent être au moins à mi-temps. Alors il y a une exception pour ceux qui ont 3 ans, alors là il faut produire 24 feuilles de paye. 24 feuilles de paye, bon c'est très difficile... en 3 ans, de réunir 24 feuilles de paye. Donc le critère principal, c'est 5 ans de présence, 8 feuilles de paye et un CERFA.
Ben, du coup, il est 13h, on fait une pause musicale et on revient tout de suite.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Et on est de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et nous sommes toujours avec Christian Joyeur, l'un des animateurs de la grève des sans-papiers de Chronopost, et celle de 2019 et celle actuelle de 2022. Juste avant de partir sur la vie quotidienne sur le piquet, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la préparation de cette grève, c'est-à-dire avec le syndicat Solidaire?
Donc, en fait, on a constitué... Alors, les liens avec Solidaires sont assez anciens, puisque depuis 2008, il y a régulièrement une relation, un soutien financier. On donnait un rapport annuel. Ça nous avait stimulé pour faire un bilan annuel du collectif. Mais avec la lutte Chronopost, dès que le groupe, on sait qu'on va faire une action sur Chronopost. Du coup, on pousse à une réunion où on appelle les syndicats. La CGT ne vient pas, parce qu'ils considéraient que la confidentialité n'existait pas. Et par contre, Solidaire vient et on s'entend immédiatement avec Solidaire du Val-de-Marne sur le fait qu'on doit cibler non pas mission intérim, puisque c'était l'agence d'intérim qui salariait les personnes. On doit pas cibler non plus de Richebourg, qui est le sous-traitant qui est à l'œuvre dans les tris du colis et les déchargements. On s'était mis d'accord, c'était sur le fait de cibler la Poste directement. La Poste en tant que donneur d'ordre. Et donc, c'est comme ça que... En ciblant la Poste, ça a été une lutte Chronopost. Une lutte Chronopost, c'était... La CGT avait fait différemment en 2018. Ils avaient eu une initiative sur le site de Chilly-Mazarin, qui est vraiment le vaisseau amiral de Chronopost. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus important qu'Alfortville. Mais ils appelaient ça, dans leur tract, une grève de Richebourg. Là, on ciblait la Poste. Du coup, ça revenait à cibler l'État aussi. C'est-à-dire, d'une main, l'État faisait des règles de régularisation où extrêmement peu pouvaient rentrer dans les critères. Du coup, la circulaire Valls, ce n'est pas une circulaire de régularisation, c'est une circulaire de non-régularisation, puisque ça maintient la très grosse majorité en dehors des critères. Et d'autre part, après avoir fait ces règles, son entreprise d'État... piocher dans ceux qui ne pouvaient pas être régularisés pour les surexploiter en étant certaine de ne pas avoir une lutte de salariés réclamant des droits. Donc c'est comme ça qu'on a dénoncé d'abord, c'était pas simplement Solidaire 94, Sud PTT était d'emblée dans la boucle. Et donc, on a commencé avant même l'envahissement du parking Chronopost. Alors, on n'a pas été dans les bâtiments, hein, c'était exprès. Avant même l'envahissement, il y avait un tract rédigé, une partie rédigée par Sud PTT et l'autre partie rédigée principalement par le collectif. C'était en gros le point de vue, d'un côté, c'était le point de vue des sans-papiers. Et d'autre côté, ça s'inscrivait dans la continuité, c'était un discours syndical dans la continuité d'années de combat contre la Poste. Donc ce tract a été diffusé à des milliers, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais pas. Et donc le cadre est posé quand on envahit, c'est une lutte de postiers sans papier, comme l'indique le titre du livre d'ailleurs. On a dénoncé de Richebourg ou mission intérim que dans un deuxième temps. On l'a fait aussi en 2019, Fin juillet, donc quand même 7 semaines après le début de la lutte, on est allé occuper l'agence d'intérim à Corbeil qui s'appelle Mission Intérim, qui salariait les camarades. Et pour obtenir des CERFA qu'on n'a pas eu, bien sûr. Et un peu plus tard, ça c'était fin août, on a été sur le siège de Richebourg qui est à côté de la Porte Dorée. Ça, il fallait le faire. Fallait faire pour face à la préfecture pour dire ben on a tapé à toutes les portes, mais on l'a fait que quand c'était connu que en fait c'était une lutte de Chronopost, une lutte La Poste quoi, que les médias, l'AFP, les Libération, l'Humanité, le Parisien surtout, le Parisien a couvert l'occupation devant du parking et aussi les débuts du piquet devant avec plusieurs articles que c'était clairement la cible, c'était Chronopost. Donc on s'est entendu là-dessus et on n'a jamais démordu. Et dans la deuxième lutte, c'était pareil, la cible c'est toujours la poste. Et on dénonce que aussi il n'y a pas eu la moindre enquête d'inspection du travail, la moindre. Si. S'il n'y avait rien eu, ça aurait posé un problème. Donc, ils ont ouvert. Il y a eu des ébauches d'enquête. Donc, en gros, on ouvre un dossier, on ne met rien dedans et on ne le referme jamais. Ça a été la pratique en 2019. Ça a été la pratique à partir de 2021-2022. Et ils continuent à parler d'enquête en cours. Donc, c'est vraiment profondément ridicule, puisque en 28 mois, une enquête en cours où jamais un inspecteur du travail n'a interrogé des personnes qui étaient disponibles H24, qui campaient devant, qui occupaient devant l'agence Chronopost. C'est un piquet de grève. Donc, ils étaient là, jamais un inspecteur du travail est venu les interroger, y compris les questionner. Donc, vous dites avoir travaillé là. Donc, quel est votre nom? De quel mois avez-vous travaillé? Faire ce qui a été fait, par exemple, au Coudray-Monceau. Il y a eu un inspecteur du travail dès le premier mois de grève, la fin du premier mois de lutte. Et donc, il a interrogé les gens. Il avait même un tableau. Et il a constaté que, au mois près, ce que disaient les personnes qui avaient travaillé à l'intérieur, ça correspondait aux archives qui avaient à l'intérieur. Donc il y avait plus qu'une forte présomption que les gens avaient vraiment travaillé. Et donc ils disaient c'est clair, les personnes ont travaillé, tout correspond, leurs déclarations et les archives. Donc ce travail a été fait aussi à RSI. Il y a une inspectrice du travail qui est venue sur comment on occupait. Le piquet de grève s'était positionné devant le siège de RSI à Gennevilliers. Donc, une inspectrice du travail est venue et elle a fait un travail. Ça nous a aidé d'ailleurs sur Gennevilliers pour obtenir les CERFA, les attestations de concordance de l'entreprise RSI. RSI, c'était moins dur à obtenir que de Richebourg ou La Poste. Hein. Mais le piquet s'est maintenu pour pouvoir avoir quelque chose face à la préfecture. Donc on pouvait pas lever le piquet après la délivrance des. Mais donc sur Gennevilliers, on n'a pas eu de soutien syndical. Sur DPD, c'est co-organisé avec Solidaire et Sudpost 91. C'est le même profil d'organisation que sur le 94. Par contre, sur le 92, on était seul. Le collectif était seul.
Et tu supposes quoi comme raison?
Écoute, ça c'est il y a des raisons circonstancielles, il y a des raisons. Moi, je peux pas rentrer là-dedans. Je suis pas là pour envoyer des missiles sur les uns et sur les autres. Mais c'est sûr que une lutte de sans-papiers, c'est très difficile. Donc, ça peut faire peur, ça peut. Quand il y a une lutte de sans-papiers, les syndicats qu'on sollicite, ils ne sont pas forcément sur les mêmes options, ils ne sont aussi pas forcément solides, et donc, même, des fois on apparaît plus solide, plus nombreux, plus important qu'eux-mêmes. Donc, et puis aussi, il y a quelque chose qui fait peur chez les sans-papiers, c'est la misère. C'est une misère terrible. Et donc, ça, c'est un peu déstabilisant pour des militants qui, eux, ont un boulot, ou alors une retraite, ou alors un logement, etc. Il y a une sorte de réticence à aller soutenir des gens qui sont dans ces situations de quasiment désespérées, bien souvent. Mais en fait... Si ceux qui viennent, ils voient que c'est des groupes militants qui sont structurés avec des cotisations, une caisse de collectif. C'est une organisation parasyndicale, disons, standard, quoi, avec des structures, des délégués, des gens qui parlent politique, qui savent tenir la dragée haute à des militants qui ont des années de pratique et qui sont pas d'accord. Ils se confrontent à ça.
RSI, c'est une boîte de...
Alors c'est une entreprise d'intérim spécialisée dans le bâtiment. Ils avaient une agence qui était de boulevard Magenta, qu'on avait occupée pendant quelques heures. C'était le 22 octobre, je crois, 2021, pardon. Donc, on s'est fait virer par la police. Il y a des années de ça... t'as eu des occupations de bois d'intérim et donc la police laissait les juges juger et puis ils n'intervenaient pas. Mais là, une centaine de sans-papiers qui viennent interpeller une agence d'intérim, il y a quand même une présomption d'illégalité de l'entreprise d'intérim. Mais non, ils ne voient que ce qu'ils ont sous les yeux, c'est que c'est illégal d'occuper un... Et en plus, je suis même pas sûr que ce soit tellement illégal que d'occuper l'entreprise du patron. Il demandait des comptes à un employeur. Ouais. Mais la pratique de l'État, la pratique répressive s'est accentuée au fur et à mesure. Et donc là, ils évacuaient. Quand on occupe une agence intérim, ils évacuent.
D'accord. Donc maintenant, sur la vie quotidienne du campement de 2019, dans ton livre, il y a un plan du campement. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la vie quotidienne sur le campement, sachant que ça a commencé à une période pas très...
Ça commence en juin. En juin, il commençait à faire beau. Alors, la journée où on a envahi, c'était sa pluvioté, ça pleuvait, même ça mouillait. En quelques heures, les gens étaient trempés. Hein. Ça nous a peut-être aidé d'ailleurs, parce que d'emblée, il y a une collusion entre l'État, la police et Chronopost. Bon, déjà, il y a les renseignements généraux, ils avaient... Par le biais de multiples biais, ils savaient qu'on allait faire une initiative. Donc, ils ont transmis l'information à Chronopost. Et le jour où on arrive, il y a une dizaine de vigiles. Ils discutent entre eux à l'intérieur de l'agence sur comment régler le problème. Alors, régler le problème aux yeux de Chronopost, évidemment, et aux yeux de l'État, c'est faire qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Ils ont cru qu'avec les intempéries, les gens allaient sortir peu à peu et que finalement, il allait avoir le problème allait se résoudre de lui-même. Et en fait, ça ne s'est pas passé. Ça s'est pas passé. Ils ont toujours tendance à sous-estimer la détermination de sans-papiers. Une détermination qui est aussi construite dans des tas de réunions, dans des AG, etc. Donc, quand les sans-papiers qui n'ont pas de perspective d'obtenir une régularisation, ils tiennent quelque chose, ne serait-ce qu'un bout de parking, et qu'ils espèrent, à partir de ce bout de parking, obtenir une régularisation, c'est dur de les faire lâcher. Et donc, de fait, ils ne sont pas lâchés. Ils m'avaient même arrêté, et ils ont arrêté un journaliste qui était venu couvrir l'événement.
T'as à boire.
T'as à boire, oui. Donc, les personnes n'ont pas quitté pour autant l'endroit. Et, ils ont simplement attendu 24 heures le fait qu'on sorte. Sur ces entrefaites, le deuxième jour, il y a eu un événement très important, c'est la venue du député Luc Carvounas avec le maire, qui se sont positionnés en soutien. Et ce soutien a été immédiatement concrétisé par une demande du député qu'ils installent une toilette à l'intérieur du parking. Alors, évidemment, au Chronopost, ils n'avaient pas envie. Alors, ils l'ont fait quand même. Enfin, c'est la mairie qui a loué la toilette. Et donc, après, quand il y a eu un jugement au bout de 15 jours pour sortir pour la sortie du parking, les toilettes ont été installées en bout de piquet. D'abord deux toilettes, puis quatre. Et ça a été un élément essentiel dans la vie quotidienne, mais pas seulement dans la vie quotidienne, c'était un élément essentiel politique. C'est-à-dire que ça montrait aux yeux de l'État que la mairie, les députés soutenaient. Après, sur la vie, donc on a quand même dimensionné, on n'a pas laissé s'étendre le piquet au-delà de frontières qu'on avait décidées. Et donc, c'est des tentes qui ont été mises. Donc, évidemment, ça ne passe pas à la radio, mais c'est des petites tentes, il y avait deux grosses... Il y avait le Barnum de Sud PTT, de Solidaire, pardon, et deux grosses tentes qu'on nous avait données. Mais pour l'essentiel, c'était des petites tentes, à l'exception, juste à l'entrée de Chronopost, d'une construction de fortune, d'un abri de fortune, qui au début, c'était un peu n'importe quoi avec des bâches, mais peu à peu, c'était de plus en plus bien fait, organisé, bien tendu. Il y avait, je crois, 13 personnes qui... Ouais, c'est ça. 13 personnes qui... chauffées même. 13 personnes qui dormaient dans ce dortoir. Donc, évidemment... Alors, les repas étaient faits dans le foyer... ils étaient achetés, plus exactement, dans le foyer d'Alfortville, qui était à 1 kilomètre de distance. Donc, que dire sur la vie quotidienne ?
Il y avait des allers-retours fréquents entre le foyer d'Alfortville et...
Ah ben oui, il y avait des... Bien sûr, il y avait des allers-retours, puisque les gens allaient se laver. Soit ils allaient se laver... dans leur foyer d'origine, parce que les gens avaient... C'était pas un campement de migrants qui n'avaient pas de mal logés ou de sans logis. C'était un piquet de grève, donc les gens dormaient quelque part. Alors au bout des 7 mois, tu avais peut-être 2-3 personnes qui avaient perdu leur matelas, mais pratiquement tous l'ont gardé pendant les 7 mois. Donc ils avaient un endroit où aller se laver, où ils avaient un port d'attache, quoi. Ceci dit, au plus ça durait, plus l'environnement dans lequel ils se retrouvaient quand ils étaient rentrés dans leur foyer, il était un peu délétère. Les gens autour leur mettaient la pression pour qu'ils arrêtent la lutte. Ça venait souvent aussi de personnes qui avaient été un petit peu au piqué, puis qui avaient renoncé. Et, en gros... puisque eux, ils ne peuvent pas mettre la pression sur les autres pour qu'ils arrêtent. Mais donc, il y avait un aller-retour avec le foyer pour la nourriture. Pour les douches, de plus en plus, même si les gens avaient dormi quelque part, ils dormaient sur le piquet, mais ils avaient un lieu de vie d'origine et sur lequel ils allaient retourner après la lutte. Et quand même, ils se douchaient au foyer d'Alfortville parce qu'ils n'avaient pas envie de retrouver des gens de leur famille, des fois, qui leur mettaient la pression pour qu'ils arrêtent.
Et pourquoi il y avait cette pression ? Comment ça se passe entre...
Ça se passe pas bien. Il suffit de s'en rendre compte que dans les manifestations, il n'y a pas les communautés. Les manifestations, d'abord, tu as majoritairement des sans-papiers, tu as un soutien qui est peu important, Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé au moment de Saint-Bernard, où il y avait, quand ils éclatent la porte de l'église Saint-Bernard, une manifestation de 30 000 personnes qui suit le samedi suivant, et qui va sur Nation, et puis bon, plusieurs milliers vont sur le centre de rétention de Vincennes. Donc là, les sans-papiers étaient minoritaires. Mais aujourd'hui, les sans-papiers, dans les manifs de sans-papiers, les sans-papiers sont majoritaires. Et on voit pas les communautés, y compris les anciens sans-papiers. Parce qu'en fait, c'est compliqué sur les familles, dans les familles, la personne qui est sans-papiers, elle est dépendante des autres. Elle cotise pour l'association, les jeunes font la cuisine.
Ils sont en sous-location dans des
foyers. Ils empruntent l'identité. Souvent, généralement, ils payent. Donc, il y a un rapport de dépendance qui fait que quand il y a des personnes qui revendiquent la régularisation, des fois elles sont aidées, mais plus souvent elles sont pas aidées. Et ça bouge les lignes au sein des familles. Donc c'est pour ça que je dis ça se passait pas forcément bien. Et dans les autres sans-papiers qui faisaient le choix de ne pas venir, ils se sentaient quelque part obligés de justifier leur choix de pas participer à la lutte, en mettant la pression sur la personne en disant ça va déboucher sur rien. Et quand ça a débouché quand même sur 73 régularisations, dont tous les postiers, 27, tous ceux du moins qui avaient duré jusque-là, il y a eu 73 régularisations, donc 27 postiers et 46 qui n'avaient pas travaillé sur Chronopost. Donc à ce moment-là, les gens qui étaient partis, qui étaient restés un mois, deux mois, puis qui étaient partis, ils sont revenus. Mais on ne les a pas acceptés. Et ceux qui étaient restés pendant des mois et des mois ne les ont pas acceptés. Ils ont voulu s'introduire et pouvoir déposer leur dossier, et on leur a dit non.
Donc malheureusement, on va devoir conclure. Est-ce que tu peux nous rappeler l'actualité des grévistes?
Alors, l'actualité des grévistes, c'est... Piquet RSI, il n'y a plus de piquet depuis novembre 2022, c'est des luttes, mais les gens travaillent, donc c'est de loin en loin, il y a une mobilisation. La dernière fois, c'était le 4 avril sur les marches de l'Arche de la Défense. Et Chronopost Alfortville, par contre, il y a eu un blocage de la préfecture qui s'est traduit uniquement par 15 cartes. Et là, on va devoir... le piquet va avoir une fin programmée. Maintenant, on a quand même des manifestations. On en a fait une jeudi dernier devant la préfecture. On en fera d'autres. La lutte continue. Elle continuera après la levée du piquet. Parce que ce qu'imagine la préfecture, c'est qu'une fois que les gens seront dispersés, ça sera définitivement terminé. Donc ça, ils vont se rendre compte que c'est pas vrai.
D'accord. Est-ce qu'il y a une cagnotte où on peut cotiser ?
Oui, par contre, j'ai pas l'adresse là.
Bon, on le mettra en lien, puisque on peut retrouver cette émission sur le site internet de la radio fréquence fpp.net, ainsi que sur celui de l'actualité des luttes. Donc, je rappelle ton livre « Postier sans papier, récit d'une grève » de Christian Joyeur aux éditions Sileps.
15 €.
Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain de 12h30 à 13h30 sur FPP 106.3 FM et rediffusion de 6h30 à 7h30 tous les jours. Merci à vous et à bientôt.
Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça avait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.